Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble pendant une heure encore jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Jérôme Lavrieux, Élise Goldfarb et Pierre Rondeau. Dans un instant, on va se demander s'il faut en finir avec le tourisme animalier. Vous nous appelez au 3216, vous réagissez également sur le WhatsApp.
0612 424 424, on lira tous vos messages ensemble.
Il y aura le tu préfères également, on parlera route des vacances. Est-ce que dans ces cas-là, vous préférez écouter un podcast, la radio ou encore de la musique? Ce sera à 14h25, à 14h30, RMC Conso, on vous dira, et c'est important, comment bien préparer votre voiture pour partir en vacances. Et puis on terminera avec les immanquables de Martin.
On va parler d'une surdouée qui a battu un record, celui de la plus jeune diplômée du brevet. Elle a seulement 9 ans. Ah. Et elle a eu son brevet des collèges.
Elle est en 6e, quoi.
Ouais, et puis vous proposer de vous offrir un morceau de Coupe du Monde, un morceau de pelouse du stade de la finale en vente sur le site de la FIFA. Mais bon, c'est la FIFA qui vend, donc va falloir casquer un petit peu.
C'est combien?
C'est 400€ à peu près.
Hein? Oui. Pour un bout de pelouse?
Exactement. Et encore, il y a un premier prix. Il y a un prix premium à 700-800€.
Ouais, parce que c'est.
Et le morceau de pelouse est plus grand.
Ah, d'accord. Ah oui.
Il y a un petit billet.
Et l'endroit aussi, non?
Ouais, c'est. Surface de réparation, c'est plus cher. En tout cas, on en parlera à 14h40.
RMC, Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec l'accident du jour. Et c'est celui qui a eu lieu vendredi dans le parc américain de Yellowstone. Un homme s'est fait attaquer et encorner par un bison. La scène filmée est choquante, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Martin, les attaques de bisons, de lions, d'éléphants et même de baleines ne sont pas si rares que ça dans des espaces fréquentés par des touristes.
Et c'est parfois très très grave, notamment lors de safaris en Afrique l'année dernière. Par exemple, en juillet, deux touristes avaient été tués par un éléphant dans le parc de la Longwa en Zambie. Quelques semaines plus tôt, un lion avait tué un homme en Namibie. Le touriste était sorti de sa tente pour aller aux toilettes quand le lion l'a attrapé. Une femme a aussi été piétinée par un éléphant en juin 2024 en Afrique. Des accidents de ce type arrivent, même si généralement, dans les parcs naturels où ces excursions sont organisées, il est recommandé de ne pas sortir des véhicules. Des patrouilles sont même organisées souvent par les gardes des parcs pour s'assurer que ces règles sont respectées. Cependant, aucune législation internationale n'encadre ces pratiques. Ce tourisme animalier, les associations de défense des animaux le déplorent, évoquant le stress intense imposé par ces dizaines de véhicules qui défilent parfois sous les yeux des éléphants, des lions, des zèbres, des girafes ou donc des bisons. En attendant, ce tourisme animalier cartonne. Exemple, en Zambie, le pays a accueilli plus de 5 millions de touristes en 2024, du jamais vu dans ce pays de l'Est africain, alors que le tourisme animalier est le plus gros atout du pays.
Voilà, et si vous le regardez sur RMC Story, ce sont des images quand même très très impressionnantes, effectivement, de ce touriste voilà, qui a été encorné par un bison. On a également des images d'une touriste qui se fait donner un coup de trompe par un éléphant. Voilà, tout ça c'est sur RMC Story, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Alors, accident, écologie, faut-il en finir avec le tourisme animalier? Est-ce qu'il faut arrêter avec les safaris, Pierre Rondeau?
Alors, là-dessus, c'est quand même assez particulier parce que sans ces safaris animaliers, on parle d'animaux en voie de disparition, notamment les animaux de la savane, le lion, la girafe, l'éléphant. Sans espace, sans organisation, sans modèle économique qui attire du monde, qui attire les touristes, qui permet la consommation, qui permet une activité, qui permet un soutien économique à ces pays-là, ces animaux seraient amenés à mourir. Hein, on parle d'animaux en voie de disparition. Et à travers le tourisme animalier, à travers ces safaris photos, on assure leur protection, on assure leur sauvegarde. Dire on arrête parce que ça provoque accident, ça provoque débordement, ça provoque problématique vis-à-vis des animaux, le risque serait de dire si on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Comment on assure une économie? Et si l'alternative serait non pas les safaris photos, mais serait carrément les safaris animaliers. Les safaris animaliers, c'est carrément je prends un fusil et je vais chasser le lion, je vais chasser l'éléphant.
Non, mais ça c'est interdit en fait.
Non, il y a beaucoup de pays qui
mais c'est interdit.
D'un strict point de vue économique, il y a des pays africains, notamment le Kenya si j'ai pas de bêtises, qui ont réglementé les safaris animaliers et qui font de la reproduction d'animaux sauvages amenés avec des permis à tuer. Et les gens payent 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour avoir l'autorisation d'aller chasser le lion, d'aller chasser le guépard, d'aller chasser l'éléphant, d'aller chasser la girafe. Et donc, le problème, c'est ça. C'est que si on arrête parce que ça provoque des accidents extrêmement mineurs, que font ces pays à la place?
C'est pas des accidents extrêmement mineurs, là, excuse-moi.
Dans le sens où il y en a très peu. Il y a 5 millions,
mais encore heureux.
Relativement rare. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 millions.
Oui, mais encore heureux, j'en ai peu.
Heureusement, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on.
Il y a eu aussi un accident à Thoiry il y a quelques mois.
On a décidé d'arrêter parce que sur 5 millions de touristes en Tanzanie, il y en a eu un accident.
Excusez-moi.
C'est grave.
Mais il n'y a pas que ça.
C'est quoi l'alternative?
Excusez-moi, se déplacer, pardon Pierre, mais à l'autre bout du monde pour aller déranger des animaux, est-ce que ce n'est pas un tourisme d'un autre temps?
Je suis d'accord. Mais le problème.
On parle de survie de la planète, on parle de tout ça.
Comment ces pays à la place? Comment ces pays s'assurent une rentabilité économique?
D'accord, mais à ton avis, qu'est-ce qu'a les moyens? Un safari, excuse-moi, pour une semaine, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc qui a les moyens aujourd'hui de partir en safari, d'aller photographier les lions de la savane? Je suis désolée, hein, c'est pas les plus précaires.
Nous la France, le premier pays touristique au monde, les gens viennent en France pour aller voir la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris ou le Mont-Saint-Michel, la Tanzanie, est-ce qu'elle peut bénéficier de ces monuments historiques? Est-ce qu'elle peut attirer 5 millions de personnes par an si c'est pas pour présenter la girafe ou l'éléphant?
D'accord, mais on peut peut-être avoir une autre forme de tourisme, Élise Goldfarb. Vous avez fait des safaris, vous avez tout fait, vous, donc.
J'ai déjà fait un safari, mais je pense qu'il y a tourisme animalier et tourisme animalier. Il y en a deux, pour moi. Il y a, comme dit Pierre, le tourisme animalier qui sert à financer les réserves naturelles et les parcs naturels. Et donc, une biodiversité, la survie de certains animaux, mais ce sont des endroits qui sont extrêmement contrôlés. Moi, j'ai fait un safari au Rwanda.
Quoi.
Non, c'est pas un zoo géant. C'est un énorme parc qui a été mis en sécurité par des États, qui a été sanctuarisé et qui permet la sauvegarde d'espèces animales. Ce sont des endroits extrêmement contrôlés. Tu n'as absolument pas le droit de sortir de ton véhicule. Tu n'as absolument pas le droit de nourrir les animaux. Absolument pas le droit de les toucher. Et tu n'es pas en contact avec eux. Ils sont loin de toi.
Charges, je crois.
Tu as ensuite le tourisme animalier, celui qu'on voit à Dubaï, en Thaïlande, où des gens se prennent en photo à dos d'éléphants, ou se prennent en photo.
La Thaïlande a interdit d'ailleurs cette pratique-là.
Ça a été interdit assez récemment. Où tu nages avec les dauphins. Quand j'étais au Japon, j'ai vu quelque chose qui est très choquant, c'est que tu as des cafés avec des pingouins dedans, des cafés avec des aigles, et tu vois des pauvres petits aigles et des pauvres petites chouettes qui ont des chaînes. Et c'est très fréquent au Japon, dans toutes les villes du Japon, tu as des cafés avec des animaux qui sont tout simplement enfermés.
Des cafés pingouins.
Ouais, des cafés avec des pingouins, c'est-à-dire tu payes 10 euros et tu prends ton café, tu peux caresser les pingouins, mais ça
pue,
c'est horrible. Ça, c'est du tourisme irresponsable et dramatique. C'est comme, tu sais, sur la place Jamel Efna à Marrakech, t'as toujours un mec avec les serpents, le singe.
De moins en moins.
Ça, c'est de la maltraitance animale. Et il faut faire la différence entre aller se mettre à dos d'éléphant, où c'est souvent des braconniers qui veulent se faire du fric sur le dos d'éléphants maltraités, et aller dans un safari où tu payes cher et où tu payes justement la protection du parc.
Martin Bourdin. On a Loné qui nous fait cette remarque sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Ce qui s'est passé à Yellowstone, ce touriste qui s'est fait embrocher par un bison, ça n'a rien à voir, nous dit-il, avec le tourisme animalier. Yellowstone, c'est un parc naturel dans lequel vivent des animaux sauvages. On n'y va pas forcément pour observer des animaux sauvages. Il est bien précisé dans ce parc qu'il ne faut pas approcher les animaux, nous dit Loné, qui visiblement connaît le parc de Yellowstone.
Oui, quelqu'un qui n'a pas respecté les règles.
Voilà, et cet homme plutôt âgé était quand même très près du bison, quoi, avec son fils. Donc à un moment, enfin voilà, faut aussi être un petit peu intelligent. Mais Jérôme Lavrieux, est-ce qu'à un moment faut peut-être plus réglementer? Par exemple, aujourd'hui il y a le tourisme d'épaule, et en fait il y a beaucoup de gens qui vont voir la banquise en se disant on la verra plus jamais, la banquise, et donc en fait ils y vont pour espérer voir un ours blanc, des phoques, des manchots, etc. Est-ce qu'il faut continuer ce genre de tourisme, Jérôme? Et encore une fois, c'est une minorité qui est très argentée qui fait ça.
Je suis contre ça. Je suis pour la sanctuarisation de certains espaces de notre planète, quitte à ce qu'on paye une taxe internationale, etc. pour ça. Moi, je ne prends pas plaisir. J'imagine pas faire un safari photo. Je me refuse d'aller dans des zoos. Je me refuse depuis des années à aller dans un cirque où on exploite les animaux. Je ne prends pas mon pied. J'ai eu la chance d'aller à New York une fois dans ma vie, enfin plusieurs fois dans ma vie. Il y a des calèches avec des vieux chevaux.
C'est horrible.
C'est
pas tout à fait la même logique.
Sur l'exploitation économique de l'animal pour le plaisir. Voilà. Je conçois qu'on puisse dans certaines occasions chasser parce qu'il faut réguler la population d'animaux, parce que ça ferait trop de dégâts. Je conçois qu'on puisse faire des tas de choses, mais Moi, je préfère voir un beau documentaire sur la faune sauvage. Oui. Voilà. Je vois pas la réflexion que vous venez de faire de dire il y a des gens qui vont sur la banquise parce que c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans un paquebot sur la banquise pour voir un pauvre ours blanc famélique que la banquise est en train de fondre aussi. Oui. Donc,
et c'est des croisières qui sont hors de prix. Hein. C'est plus cher aujourd'hui que les croisières au soleil. Hein.
Donc voilà, je prends pas mon pied là-dessus. Je conçois qu'il y a l'économie du pays, etc. Mais si tu gagnes plus d'argent en faisant ça qu'en faisant autre chose, tu feras jamais autre chose pour développer ton pays aussi.
Martin Bourdin.
Non, je voulais juste dire, je trouve que c'est pas, et c'est tout à ton honneur de pas mettre les pieds dans les eaux et etc.
D'être cohérent dans ton incohérence.
Exactement. Mais je trouve que c'est pas forcément tout à fait la même chose. Les eaux et les animaux qui sont exploités, etc. Tu parlais des chevaux à New York, effectivement, que ce qui peut se passer en Afrique, où effectivement, comme le disait Pierre, ce sont des réserves naturelles. L'idée, c'est de voir les animaux dans leur espace naturel et de voir un peu ce qu'on peut observer. Mmh. Et on y va, on a la chance. Ah. Pas. Moi, j'y suis allé.
Tous les gens qui y vont disent que c'est fantastique.
Mais l'espace naturel d'un lion, c'est pas de croiser des humains dans une voiture.
L'espace et en fait, c'est aussi le côté, faut accepter d'une de les voir si on les voit de très très loin et de deux de pas les voir en fait ces animaux là parce que c'est leurs habitats naturels. Moi je suis allé en Ouganda, j'ai eu cette chance là d'aller voir des gorilles des montagnes dans leur espace naturel. Il y a un trek à faire pour les voir et il y a une possibilité de ne pas les voir.
Mais il y a des organisateurs de safari sur contrat te garantissent de voir les Big Five.
Bah oui, mais eux, c'est pas normal.
Mais c'est pour ça que les associations de protection animalière font la différence entre ce qu'on appelle du tourisme d'observation et du tourisme d'exploitation. Exactement. T'as des animaux, t'es juste là pour les observer, mais t'es dans leur habitat et tu touches pas. Et ils sont dans des espaces énormes. Et l'exploitation, où là, tu montes sur leur dos, tu joues avec eux, tu donnes le biberon à un tigre. C'est pas normal.
Par exemple, les gorilles, déjà notre guide nous a dit, on va essayer de les voir, mais c'est sûr. Et en fait, on savait pas où ils étaient. Il y avait des guides qui les suivent des protecteurs, la garde des parcs qui les suivent de plus ou moins loin. Donc, ils voient un peu le secteur.
Qui t'avertissent.
Mais on les a perdus de vue. On sait pas où aller.
Alors, Alain est avec nous. Il nous appelle de Triguières dans le Loiret. Il est comptable et il est adepte de safari. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Merci d'être
bonjour
avec nous.
Bonjour à tous.
Alain,
bonjour.
Vous faites souvent des safaris ou vous en avez fait une seule fois?
Vous rigolez, ça fait au moins 35 safaris que je fais. Ah. Je fais tous les ans.
Tous les ans. Et vous allez où pour faire les safaris?
Septembre.
D'accord. Et vous allez où?
Je vais au Kenya. Je vais en Afrique du Sud, je vais en Ouganda, je vais en Zambie, en Tanzanie, en Namibie, au Botswana, enfin partout où il y a des animaux sauvages.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, Alain?
C'est d'être dans la nature, premièrement. Voir les animaux dans leur élément naturel et d'observer, de faire des photos. J'adore la photo. Donc, beaucoup de photos. Et alors, moi, je voulais dire aussi que s'il n'y a pas de safari photo en Afrique, il n'y a plus de réserve. Et qui ira préserver la vie des animaux? Parce que qui finance la préservation des animaux? Il faut savoir que quand on va dans une réserve, on paye un droit d'entrée. Ce droit d'entrée contribue à la protection des animaux, à également payer des gens, les guides, les rangers, tous ceux qui travaillent dans les réserves, les lodges, enfin bon, tous ceux qui sont amenés à travailler du tourisme.
Et Alain, est-ce que je peux vous demander combien vous avez payé pour une semaine en safari?
Alors moi, je fais des safaris.
Alors attendez, on ne vous a pas entendu Alain, allez-y.
Oui, je fais des safaris, par exemple cette année au Kenya, pour deux semaines, je paye 4 500 €.
Par personne?
Par personne.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Alain, en tout cas merci pour ces explications, c'est ce qui revient aussi dans beaucoup de messages sur WhatsApp, effectivement le financement de ces réserves par les touristes entre guillemets animaliers. Merci guillemets, beaucoup Alain, et on va entendre le son de cloche de Pierre Rigaud, parce que c'est important d'entendre aussi l'opposé. Pierre Rigaud, il est fondateur de l'association Nos Vivencia. Bonjour Pierre Rigaud.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous êtes défavorable à ce tourisme animalier ou est-ce que vous entendez les arguments d'Alain qui était avec nous il y a quelques instants?
Ils sont un peu entendables en partie, à mon sens, les arguments qui ont été évoqués. Je pense que l'un des seuls cas où on peut se dire que c'est éventuellement acceptable de favoriser une forme de tourisme d'observation, c'est quand ça remplace des safaris de chasse, par exemple, et quand c'est un moyen pour les gens localement de préserver effectivement les animaux en faisant venir des touristes pour les photographier et les voir plutôt que pour tirer dessus. Après, évidemment qu'il faut bannir toutes les formes d'exploitation qui ont été évoquées avant, des tigres enchaînés en Asie, enfin tout, là où les animaux ne sont pas du tout à l'état libre et sauvage dans leur milieu naturel, mais sont contraints, sont deviennent des objets de foire, là, c'est évidemment à bannir. Et puis, il faut rappeler qu'il y a plein de choses à voir chez nous. Alors, évidemment, quelqu'un a dit tout à l'heure, et je suis d'accord, il faut accepter de pas toujours voir les animaux. On peut aller en France, pas loin, avoir un bilan carbone acceptable, avec un budget très modeste, pour aller en vacances quelques jours, voir, je ne sais pas moi, voler des milans royaux en Auvergne avec une association de protection de la nature, avec des guides locaux.
Il y en a qu'à eux, les bassins.
Et oui, alors c'est peut-être moins impressionnant et moins exotique que d'aller voir les girafes et les lions, mais ça crée quand même moins de dommages sur le plan environnemental globalement. Et alors évidemment, on voit moins de grands animaux, c'est peut-être moins impressionnant, mais c'est peut-être plus subtil dans l'approche, parce que une personne va vous expliquer comment on observe les traces d'animaux, comment on écoute le chant des oiseaux, ce genre de choses. Mais c'est aussi à privilégier. Chez nous, on a énormément de richesses d'animaux sauvages, en fait.
Et Pierre Rigaud, vous pensez quoi du tourisme de banquise? J'appelle ça comme ça, mais effectivement...
C'est consternant. Bah oui, parce que là c'est juste rendre commercial un espace qui était sauvage, où il y avait rien, où il y avait un peu un des derniers endroits de la planète où il y a pas ou pas trop d'humains, et on vient dépenser du gasoil, du kérosène ou que sais-je pour aller déranger en augmentant le réchauffement climatique par la distance qu'on parcourt avec ces moyens-là et en allant salir. Non, ça, alors là, à la fois c'est effectivement comme vous l'avez dit fort justement, un tourisme de personnes privilégiées parce que c'est très cher, ça n'a aucun impact positif à part alimenter les tours opérateurs qui organisent ça.
D'accord, même si les animaux sont dans leur habitat naturel. Je veux dire, on n'enlève pas un animal de sa banquise, quoi.
On n'enlève pas l'animal de sa banquise, mais on vient déranger un milieu, on vient avec le bateau, avec tous les moyens, on vient salir, polluer, parce que ça n'existe pas, le tourisme neutre, où on ne pollue pas réellement sur place. Donc, il n'y a pas de plus-value en termes de protection. C'est des endroits qui sont, disons, libres et sauvages, pour faire simple, dans lesquels on vient rajouter des humains riches qui viennent se faire plaisir. Ça ne sert vraiment à rien, là.
Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas Pierre Rigaud pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Nos Vivencia, et on va terminer avec Franck de Fiers dans l'Orne. Bonjour Franck.
Bonjour, merci de me recevoir, bonjour à l'équipe.
Et vous aussi, donc, alors, vous venez d'entendre Pierre Rigaud, et vous aussi vous êtes adepte de safari, mais oui. Voilà, il disait Pierre Rigaud quand même que ok pour les safaris quand ils remplacent des tueries d'animaux en fait.
Oui, alors bien évidemment, moi je fais des safaris plutôt, j'en ai fait 4-5 depuis dans ces 10 dernières années. Je suis totalement à 100% d'accord avec ce que disait avec Alain tout à l'heure. Oui. Moi, ça me coûte un peu moins cher. Moi, c'est entre 1500 et 2000 euros pour une dizaine de jours. Oui, parce que je fais moi-même mon programme. Je prends mon vol, un vol Paris-Johannesburg, ça va me coûter 500 balles. J'arrive à toujours trouver des logements. Donc voilà. Moi, j'insiste, il faut inciter les gens, ceux qui peuvent bien sûr en faire. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que le tourisme vert, tel que je l'appelle, donc les safaris notamment, ça fait vivre, il l'a dit Alain, ça fait vivre des hôtels, des lodges, ça fait vivre beaucoup de gens. S'il n'y avait pas ce tourisme-là, cette économie-là, il y aurait beaucoup de jeunes qui vivent dans les petits villages autour du parc Rouvière, qui iraient grossir les bidonvilles d'Urban, de Le Cap ou de Johannesburg, et qui, et avec tout ce qu'on sait, toute la misère. Moi, j'ai la chance d'y aller. Je vois des jeunes qui étaient destinés à un avenir pas super super. Bah, ils se retrouvent cuisiniers, ils se retrouvent maîtres d'hôtel, ils se retrouvent rangers aussi. Et puis surtout, alors ça c'est économiquement parlant, d'un point de vue de sauvegarde des. Alors quand on va faire un safari, bien évidemment, faut pas faire de bêtises, faut pas descendre de la Jeep.
Mais c'est ce que j'allais vous demander justement, Franck. Vous êtes faites gaffe.
Territoire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Estelle, on va les déranger. Non, en aucun cas on les dérange. En aucun cas on les dérange. Et quand on les dérange, eh ben, ils trouvent bien le moyen de nous le faire sentir, et malheureusement, il y a des drames. Oui, il y a des morts tous les ans. Il y a eu le pauvre monsieur, enfin, je sais pas qui c'est qui est mort avec le bison, là.
Eh ben, il est pas mort, même.
Il est pas mort, enfin. Il a dû faire un truc qu'il fallait pas. Il a dû faire un truc qu'il fallait pas. Et on est chez eux, hein. On est chez eux, on est humble devant cela. Il y a des safaris qui se promènent avec des fusils dans la Jeep. Il y en a. Moi, à chaque fois, il y a jamais aucun fusil dans la Jeep. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont aller avec un fusil, dans ces cas-là, ça leur confère un pouvoir et tout, et des fois ils vont faire des conneries parce que justement ils se sentent protégés avec un fusil. Et nous, on y va sans fusil parce qu'on sait très bien que on n'aura pas le fusil pour se défendre. Donc on reste en retrait. On les voit bien les animaux, bien évidemment les big five.
Et on les dérange pas.
Voilà. Il y a aussi, faut savoir.
On rappelle les big five, c'est quoi? L'éléphant, la girafe, le rhinocéros.
Non. L'éléphant, le rhino, le buffle, le léopard et le lion.
Et le lion. Évidemment.
Et voilà. Et le seul qui est en survie ou en espèce protégée, c'est le rhino.
D'accord.
30 ans, l'éléphant était dans une espèce en voie de disparition. Et maintenant, alors je parle de l'Afrique du Sud, hein, du parc Kruger que je connais très très bien. Maintenant, c'est bon, les éléphants, ils sont, et heureusement pour eux, ils ne sont absolument pas
en tout cas, ils sont plus braconnés, quoi. Mais merci en tout cas. Alors, allez-y très vite, Franck.
Il y a des très très, et maintenant l'espace pour nourrir les éléphants devient petit. Donc c'est vrai qu'il y a des fois des chasses à l'éléphant ou vieil éléphant qui régulent. Mais ça on fait pareil en France. Donc il faut pas. Nous on a une pensée européenne. Il faut arrêter de penser à l'européenne. Il faut penser comme ils pensent là-bas. Voilà.
Eh ben merci beaucoup Franck en tout cas d'avoir été avec nous. On termine avec des messages et le résultat de notre sondage, Martin.
Oui, on a Ebouré qui nous appelle et qui nous écrit sur WhatsApp. Si on veut voir des animaux sauvages dans une réserve, faut pas aller caresser les animaux. C'était au Kenya, il aurait été voir un lionceau pour le voir de plus près. Et évidemment, il aurait souffert exactement. Et puis dans un trait d'humour, on a Raphaël qui salue le vol plané. Alors effectivement, on a quand même une pensée pour cet homme, mais le vol plané de cet homme renversé par un bison.
Il est vivant, hein.
Il est vivant, oui.
Sinon,
oui.
C'est pour ça que je vous permets de citer
le message, évidemment. Ouais, sinon,
Le sondage.
On vous a posé la question, faut-il en finir avec le tourisme animalier? Vous répondez oui à 59%.
Il est 14h24 dans Estelle Midi. Tout de suite, c'est l'heure du Tu préfères.
RMC Estelle Midi. Tu préfères.
On va parler route des vacances, parce que vous êtes très nombreux à la prendre, cette route. Et qu'écoutez-vous en voiture? Tu préfères podcast, musique ou radio? Pierre Rondeau.
Alors, comme j'ai pas le permis, moi je suis très souvent passager en voiture.
Ouais. Donc tu peux rien dire.
Tu subis.
Donc je peux rien dire.
Moi, il est hors de question que mon passager me dise quelle musique
je
dois écouter.
Je préfère, si le conducteur ou la conductrice choisit, je préfère la musique, que ça soit radio ou playlist en voiture. Podcast, j'associe au sport. Quand je fais du sport, j'écoute des podcasts. Ah oui. Salle ou courir.
Et quel genre de podcast?
Des émissions de
Estelle Midi,
France Culture, Estelle Midi bien évidemment
il se réécoute.
mais musique en voiture.
Élise Goldfarb.
Moi je j'écoute de la musique. J'écoute Céline Dion à fond la caisse, je hurle tous les Disney.
Les Disney,
c'est des moments de karaoké quoi, la voiture.
Aladdin,
les
Lyon,
Disney, ouais, tous les Disney comme un homme.
Plus Mulan.
Des classiques quoi, Hercule, Mulan, je me les refais tous, c'est excellent.
C'est sympa les voyages avec vous.
C'est trop bien. Hurle, Vita, Sheriff Aluna.
Ensemble, ça va être génial.
Mais oui. Ouais. Diams, je me refais tous les albums et la j'aime place, pas les podcasts. Alors que je suis podcasteuse à la base. C'est-à-dire que ce qui m'a fait percer, c'est le podcast. Et en fait, j'en ai marre maintenant des podcasts, d'entendre quelqu'un se
c'est quoi?
J'ai pas de mot qui n'est pas un gros mot en fait. Mais
c'est bon là, on l'a. Voilà, on a compris.
Il s'auto-congratule en racontant sa life.
Il y a d'autres podcasts intéressants.
Mais parfois, j'ai écouté des podcasts excellents, notamment ceux de Louis Média, que je recommande.
D'accord.
Ils font souvent des documentaires, en fait. Ils font des documentaires
en podcast.
Documentaire animalier, mais ils font des enquêtes.
Oui.
Ils ont fait une super enquête sur l'inceste, notamment. C'était un sujet très dur, mais en tout cas, ça te tient en haleine et tu te rends compte.
C'est horrible,
mais en tout cas, il m'a sensibilisé. J'écoute plus des podcasts de documentaires ou de sensibilisation, mais c'est toujours plus sympa la musique.
Je sais pas si on partira en vacances ensemble. Élise, Jérôme Lavrieux.
Pas de musique, mais des. La radio.
Jérôme, il écoute son moteur. Pour voir si ça tourne bien.
C'est une voiture électrique. Hein.
C'est bien huilé. Hein. J'ai huilé mes bougies, c'est nickel.
Qu'est-ce que vous êtes méchant.
Ça tourne bien, c'est un
V6. J'ai honte pour vous tellement vous êtes méchant. Non, je zappe pour écouter des émissions d'histoire, j'adore. Et si j'en trouve pas, bah, j'écoute en podcast.
Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. Donc plutôt podcast. Alors, en tout cas, on vous a posé la question, musique ou podcast sur la route des vacances.
Ah bah, vous préférez monter en voiture avec Estelle Goldfarb qu'avec Jérôme Lavrieux. Avec Élise Goldfarb plutôt que Jérôme Lavrieux.
C'est très bon, Estelle Goldfarb.
Vous répondez musique à 81%.
Ah oui, bah, écoutez, je comprends parfaitement. Moi, j'aime bien écouter des histoires de faits divers, mais les plus glauques possibles. Quoi. C'est mon petit. Voilà. C'est mon petit moment sympathique.
Ça tient en haleine.
Ça tient, oui, tout à fait. Oui. Et alors, il faut qu'il y ait des titres, tu sais, miracoleurs. Oui. Genre, j'en ai écouté un, c'était le tueur à la chaîne IFI. Voilà. C'était Christophe Onglat. Tiens, si nous.
Bah, Onglat raconte, c'est iconique.
Voilà. Et le tueur à la chaîne IFI, je vous le recommande. Dans un instant, nous aurons Charlotte Méritant. On parlait moteur en rigolant, mais on vous dira avec Charlotte comment bien préparer votre voiture avant de partir en vacances. Ben non, on part pas en vacances comme ça sans avoir vérifié ses pneus, son moteur, etc., etc. Charlotte Méritant nous dira tout dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h32, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est RMC Conso avec Charlotte Méritant.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et on parle route des vacances. Charlotte, est-ce que vous nous dites, c'est qu'on ne prend pas la route des vacances comme ça, 900 km en voiture, sans vérifier quelques points précis, Charlotte?
Surtout quand il fait chaud comme ça, sachez qu'une voiture garée au soleil peut faire monter la température dans l'habitacle jusqu'à 80 degrés en une heure. Donc il y a deux enjeux, évidemment éviter d'étouffer, mais aussi éviter d'abîmer votre voiture puisque la chaleur peut véritablement l'endommager. Oui, tout à fait. Alors le premier élément à vérifier, bon bah ça c'est un élément de confort, mais pas que, d'usage aussi. La climatisation, c'est le premier point à contrôler avant de prendre la route. Si elle souffle de l'air tiède, ça arrive, c'est probablement qu'elle manque de gaz réfrigérant ou alors que le filtre d'habitacle est encrassé. Donc ça, c'est à faire vérifier évidemment avant de prendre le volant.
Mais ça, on va chez le garagiste.
Oui, chez le garagiste.
Ça coûte cher?
Je ne connais pas les prix de cette opération, Estelle, mais si c'est changer un filtre, probablement que ça ne devrait pas coûter très très cher quand même.
Je me méfie. Est-ce qu'on surconsomme beaucoup de carburant avec la clim? Parce que ça, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai?
Vous surconsommez quand même un petit peu de carburant, mais peut-être pas autant que l'idée reçue. En gros, la moyenne, c'est 2 litres de plus tous les 100 km en ville.
Ça fait 4
euros. Et 0,4 sur voie rapide. On peut arrondir en gros à une moyenne d'un litre supplémentaire pour 100 km. Toutes routes confondues, ce sont les chiffres de l'ADEME. Pour une voiture électrique, vous allez avoir votre autonomie réduite de 10 à 20% quand vous mettez la climatisation. Bah oui, forcément, ça utilise plus d'énergie, un petit peu. Et pour éviter de trop tirer sur la clim, il y a quand même quelques astuces à mettre en place. Avant de l'allumer, roulez quelques minutes, fenêtre ouverte pour évacuer l'air brûlant accumulé à l'intérieur. Ensuite, vous allumez la clim de manière progressive. Et l'idéal, c'est d'éviter qu'il y ait plus de 5 à 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Et enfin, ce que vous pouvez faire pour faire des économies de clim, c'est utiliser le mode recyclage de l'air. Vous voyez ce que c'est?
Non. Franchement, je ne connais pas de personnes normalement constituées qui comprennent le fonctionnement de la clim dans leur voiture. Je ne sais pas. Je comprends pas. Il y a 15 000 boutons, je ne comprends pas.
Voilà. Ah oui, c'est vrai que alors ce bouton-là, il est repérable, c'est simple, sur votre tableau de bord, parce qu'il est représenté par une voiture avec un genre de C à l'intérieur, ou de voilà, ça ressemble à un C.
Mais ça, c'est pour la clim, ça.
Et oui, ça, c'est pas pour la clim.
Non.
Exactement. Ah. C'est pas pour la clim, c'est pour le recyclage de l'air. Ce que ça va faire, en gros, c'est que ça va faire circuler et recycler l'air qui est déjà rafraîchi à l'intérieur, donc à mettre une fois que vous avez rafraîchi suffisamment l'habitacle. Et il faut pas l'utiliser simplement trop longtemps, parce que à un moment donné, il faut quand même renouveler l'air à l'intérieur, parce que si vous respirez le même air pendant plusieurs heures d'affilée, ça va pas être très bon pour la santé. Mais pendant quelques minutes, ça permet quand même de faire des économies de clim.
On n'oublie pas le pare-soleil, j'imagine.
C'est comme les volets dans les logements, on occulte au maximum les ouvertures. Les plus efficaces, ça, on le sait pas toujours, ce sont ceux qui se mettent à l'extérieur de la vitre et pas à l'intérieur. C'est un petit peu comme pour un logement. Après. Oui, c'est un petit peu le risque. Bah, ouais, se faire voler un pare-soleil. Il y a vraiment des gens qui volent des pare-soleils.
Tout se vole.
Mais c'est plus efficace. Ça permet de bloquer les rayons UV. Ça permet de faire baisser la température à l'intérieur de plus de 10 degrés. Donc, ça fonctionne réellement et c'est indispensable pour éviter, bah, là encore, de surconsommer de la climatisation.
Et mettre des serviettes sur les fauteuils en cuir.
Oui, ça c'est... Ah oui, bah, déjà, là, éviter les fauteuils en cuir.
Ah, bah, ça, c'est la blessure de l'été, ça.
C'est horrible, les fauteuils en cuir.
Charlotte, quelles sont les pannes de voiture les plus courantes liées à la chaleur?
La surchauffe du moteur, évidemment. Donc après, la clim, ce qu'il faut vérifier avant de prendre la route, ce sont les niveaux de liquide de refroidissement et le bon fonctionnement du ventilateur, puisque c'est ça le premier risque en voiture quand il fait chaud, quand c'est la canicule comme ça. Il y a aussi un risque sur les pneus. Vous vérifiez vos pneus quand vous partez?
Moi, jamais, mais en fait, je considère qu'il y aura une alerte. Il y aura une alarme s'il y a un problème.
Oui, certes, mais une fois que l'alarme est déclenchée, en général, c'est un petit peu trop tard. La pression augmente sur bitume chaud, sachez-le. Donc, il ne faut pas que les pneus soient trop gonflés. Il ne faut pas non plus qu'ils soient sous-gonflés parce qu'un pneu sous-gonflé chauffe davantage. Donc, c'est très important de vérifier la pression des pneus avant de partir le matin parce que la chaleur peut fausser les mesures et que la pression soit évidemment conforme aux recommandations constructeurs, ni trop gonflée, ni pas assez. Et puis, attention aux freins. Ils sont moins efficaces quand il fait chaud. Et à la batterie, oui, la batterie. En fait, tout est endommagé finalement d'une certaine manière par la chaleur. La batterie également, elle s'use davantage avec la chaleur. D'ailleurs, ne soyez pas surprise si quand vous rechargez votre voiture électrique, ça prend plus de temps que d'habitude parce qu'il y a un genre de système de sécurité qui se met en place et qui rallonge la durée de charge quand il fait trop chaud.
Donc on fait attention avant de prendre la route des vacances. On fait attention à. On peut même amener sa voiture chez le garagiste pour voir si.
L'idéal, c'est de faire un petit contrôle,
un petit check-up.
Oui. Surtout si on a de longues heures de route devant nous.
Et surtout si on n'y connaît rien.
Oui, aussi.
vous ferez la joie de votre garagiste qui vous trouvera toujours un petit truc à changer avant la route des vacances. Merci beaucoup.
À la limite, faites 3 devis pour éviter les surfacturations.
Oui, ça ne prend pas beaucoup de temps du tout, ça. Mais écoutez,
une petite journée à faire le tour des garages autour de chez vous et vous éviterez comme ça de trop payer.
Merci beaucoup, Charlotte Méritant, RMC Conso. Et bien, écoutez, c'était le dernier de l'année.
C'est vrai.
Donc, merci beaucoup, Charlotte, en tout cas pour cette année. Ça a été un plaisir d'écouter chaque jour à 14h30 toutes vos rubriques conso. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver tout au long de l'été, tout de même ces rubriques en podcast, rmc.fr, l'appli RMC, toutes les plateformes de téléchargement, parce que dans ces rubriques, on apprend plein de choses grâce à vous. Charlotte, merci beaucoup et on se retrouve dès la rentrée le 17 août prochain. Merci beaucoup. Charlotte, dans un instant, les immanquables de Martin. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h42 sur RMC, RMC Story. C'est l'heure de retrouver tout de suite les immanquables de Martin.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et Martin, nous allons démarrer avec la prouesse du jour.
Signée Agnès Baldec, une jeune fille de 9 ans et 2 mois désormais. Titulaire du brevet des collèges. Elle est devenue la plus jeune diplômée nationale du brevet, 15,85 sur 20 en moyenne, donc la mention bien quand même, s'il vous plaît.
Elle a raté la très bien.
Papa et maman, ils vont
pas être contents.
Elle a notamment eu un 17 en sciences, un 16 en maths, 20 en anglais aussi. Good job. Elle bat donc un record de précocité établi en 1987 par un garçon qui avait à l'époque 9 ans et 11 mois quand il a obtenu son brevet.
Vous êtes admiratif, Jérôme Lavrieux ?
Ouais, je trouve ça génial. Ça présage d'un parcours d'excellence qui sera bien. On aura des nouvelles au bac dans 2 ans.
Ce sera super. Dans 6 mois.
Non, moi, je trouve ça admiratif. Je suis admiratif. On dit toujours le brevet des collèges, on le donne à tout le monde, etc. Qu'elle ait pu concourir, ça veut dire qu'elle a déjà sauté pas mal de classes, oui. Parce que c'est réservé aux élèves, c'est 3e.
Normalement, à 9 ans, on est en CM2 à peu près.
Donc là, elle est déjà en 3e. Donc nous, on passe vraiment pour des pignoufs.
Non, moi, j'ai CM2, 6e, si t'as sauté une classe, t'es en 6e, c'est ça.
J'ai passé mon bac à 18 ans, donc un loser intégral.
Pierre Rondeau, ça vous inspire quoi ?
C'est curieux de savoir si je retourne dans le passé, si j'avais 9 ans aujourd'hui et je passais le brevet de cette année, je serais capable de le passer. Parce que quand je vois le niveau de difficulté qui va en s'atténuant entre les brevets d'il y a 15, 20 ans, 30 ans et ceux d'aujourd'hui, si le niveau, Jérôme, tu fais le nom de la tête.
Il y a 30 ans, j'ai passé mon brevet, il n'y avait même pas d'examen, il suffisait d'avoir 12 de moyenne pour avoir ton brevet.
Peut-être il y a 30 ans, mais en l'occurrence,
quand tu regardes... Je peux dire que les questions étaient plus difficiles qu'aujourd'hui.
Quand tu regardes le programme, en tout cas, les sujets du brevet ou du bac de cette année et de ceux d'il y a 20 ans, le niveau de difficulté va en s'atténuant.
Après, ils ont durci un petit peu leur règle cette année sur le brevet, ils ont la part du contrôle continu était moins importante.
Mais même sur l'examen final. Moi, j'ai en tête aussi, là, ils ont rétabli, et c'était une demande d'ailleurs, parce que moi, je peux vous dire que je récupère des étudiants à la fac qui ont arrêté les mathématiques, parce que ça avait été rendu matière facultative, qui ont arrêté les maths en seconde. Ils ont rétabli cette année l'épreuve obligatoire de mathématiques en première. J'ai vu le sujet donc du bac mathématiques obligatoire en première. Le sujet était d'un niveau catastrophique. Le sujet, c'était combien ça fait de plus 2. C'était vraiment.
Et ça fait combien?
Je crois que ça fait 4. Je suis pas sûr. Mais c'était, par exemple, un produit de 50 euros augmenté de 10%, puis a baissé de 15%. Combien vaut-il? Le niveau première mathématique obligatoire. Donc, très, peut-être de façon très prétentieuse. Quand je dis, est-ce que moi, si j'ai 9 ans aujourd'hui et je passe le brevet, est-ce que je l'ai? Je me pose la question.
Bah, a priori, non, parce qu'il aurait fallu que tu sautes 4 classes.
Oui, non, mais est-ce que moi, Pierre Rondeau, quand j'avais 9 ans, est-ce que si je passais le brevet d'aujourd'hui, je pourrais l'avoir? Je me pose la question.
Et Élise Goldfarb, bah, vous êtes admirative, oui, ou au contraire, vous dites, bah, 9 ans, c'est pas un âge pour passer le brevet?
Non, moi, je trouve ça trop stylé.
D'accord.
Franchement, je trouve ça iconique. Enfin, t'as 9 ans, t'es déjà trop fraîche. C'est vrai que le brevet, c'est pas non plus très dur. Moi, j'avais été choquée au brevet, on donnait les réponses dans les questions. Mais, non, moi, je trouve ça super. Moi, ma petite sœur, elle a eu son bac à 16 ans. Ouais. J'étais trop fière d'elle.
D'accord. Donc, on va voir comment elle s'adapte au lycée, hein, si elle rentre au lycée à la rentrée prochaine à 10 ans.
Alors, souvent, c'est les enfants sont scolarisés à la maison. Hein.
Ça se trouve, après, elle va méga redoubler, elle va devenir nulle.
Non, mais souvent,
j'ai été trop forte, après, je suis devenue une poubelle.
Non, mais souvent, les enfants sont scolarisés chez eux parce que tu penses bien qu'à 9 ans, c'est compliqué d'arriver au lycée. C'est pas du tout les mêmes centres d'intérêt que ça.
Va avoir, je veux dire, à 9 ans, scolarisé à domicile, pas d'amis, pas de lien social.
Alors, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, en fait, c'est des enfants qui vont quand même. Alors, souvent, la plupart du temps, ils terminent beaucoup plus tôt que les enfants qui sont scolarisés en lycée, par exemple, et ils ont des amis dans les clubs de sport, etc.
Ils font beaucoup de loisirs, justement, parce que les cours, l'emploi du temps est mieux organisé. Je leur souhaite encore une fois qu'elle vive la vie de n'importe quel lycéen de France quand on est en seconde, première terminale, qu'on découvre les premiers amours, les premiers émois amoureux, les premières relations sociales.
À 9 ans, elle a le temps.
Non, mais justement, quand tu peux les découvrir, elle sera théoriquement au lycée, elle aura 10 ans, elle aura 11 ans, elle aura 12 ans.
Mais tu les découvres lors de tes vacances. Souvent, ton premier bisou, c'est en vacances, elle va en vacances.
Elle n'aura pas la vie d'une lycéenne lambda.
Non, mais elle n'a pas le cerveau d'une lycéenne lambda, manifestement. Donc, elle a la vie qui va aller avec son cerveau.
Elle va pouvoir faire des erreurs plus tôt que nous. Tu vois, elle, à 25 ans, elle sera prête à affronter toute la vie.
Justement, pas sûr. Mais ça, c'est
qu'elle est la crise de la vingtaine, trentaine, quarantaine et qu'elle pète un câble parce qu'elle a pas vécu la vie qu'elle voulait avoir.
Mais en vrai, il y a des élèves qui ont redoublé trois classes et qui font aussi une crise de la vingtaine, trentaine, quarantaine. Et voilà, donc préservons cet enfant.
Moi,
et
je souhaite être
heureux. Attends, vous connaissez l'histoire de Manuel Moons, le producteur de cinéma?
Pas non. Du tout.
Il a été passé partout aux infos quand il avait 16 ans, parce qu'il a eu Polytechnique à 16 ans. Aujourd'hui, il est au top dans sa life. Enfin, je peux te dire, il a produit parmi les plus grands films du pays.
Un exemple.
Et il kiffe sa life.
C'est pas forcément un destin de polytechnicienne. Voilà, on verra ce que va devenir cette petite fille. Le produit du jour.
Avis aux fans de foot, vous allez pouvoir vous offrir un morceau de pelouse du stade de la finale de la Coupe du Monde. Sur la boutique officielle du Mondial, vous pouvez désormais acheter ce morceau d'histoire de l'histoire du foot, dit la description du produit. Quelques brins d'herbe conservés dans une boîte en acrylique avec le logo du Mondial, le lieu, la date, le score final du match seront aussi gravés dessus.
Alors, j'ai
avis aux fans de foot, j'aurais peut-être dû rajouter aux fans de foot fortunés, puisque ce petit souvenir de 6 cm coûte 390€ sans frais de port. Et la FIFA a toujours le sens du business.
Alors après, la question c'est, est-ce que vraiment cette petite boîte en acrylique, ça permet de conserver le morceau de pelouse dans 10 ans?
C'est la promesse.
Parce que si dans 10 ans le morceau il est tout jaune, ou il a disparu parce qu'il a fané, bon bah ça vaut pas le coup. Après c'est un truc de collectionneur. C'est-à-dire que tu paries sur le fait que tu sais, c'est comme les cartes de foot, que peut-être dans 10 ans ça vaudra encore plus cher si le match est un match de dingo, quoi.
Après, pour les vrais collectionneurs, il y a même un coffret. Il y a 4 versions du coffret. Plus on paye, plus on monte en gamme. La version à 2585€. Vous avez une portion de pelouse de 7 cm, un billet souvenir en métal doré, une réplique miniature du ballon de la finale et un trophée de la Coupe du Monde en cristal taillé.
Oh, bah non.
Et un autographe de Donald Trump qui prend 50% du tout.
Voilà. Pierre Rondeau, ça n'a pas l'air de vous intéresser.
C'est du fétiche. Si je peux moins donner d'argent à la FIFA, je le fais.
Ah oui.
Moi, la FIFA, j'ai pas du tout envie de les aider. J'adore le foot et je suis beaucoup plus passionné et supporter du Paris Saint-Germain. Je suis plein de paradoxes. Hein. Vous allez me dire le Qatar, tout ça. Mais la Coupe du Monde et la FIFA d'Infantino, que j'exècre au plus haut point et que j'ai vraiment envie que cette personne perde les prochaines élections.
Ah oui, d'accord. Okay. Non, excusez-moi.
J'ai envie que cette personne perde les prochaines élections et qu'il y ait quelqu'un face à lui et qu'on présente vraiment quelqu'un face à lui et qu'il les perde définitivement. Cet homme a fait plus de mal au football. Alors oui, il va se gargariser d'avoir augmenté x2 le chiffre d'affaires de la FIFA. Mais aujourd'hui, le football d'aujourd'hui ne ressemble à rien. Cette Coupe du Monde m'ennuie profondément. Et je dis, vivement l'Euro de foot organisé par l'UEFA.
Élise Goldfarb.
Une phrase me vient quand j'entends cette info. Est-ce que les hétérosexuels vont bien?
Pourquoi?
Et la réponse est non.
Mais quel rapport?
À quel niveau de fanatisme on est
À quel niveau de... Parce que c'est vraiment les mecs, ils se foutent tous les jours de la gueule des meufs. Vous êtes hystériques, vous êtes hystériques. Mais un mec, un homme hétéro est capable, fan de foot, est capable de se payer. Bah oui, bah tu vois bien que c'est quand même un...
Excusez-moi, d'accord. Donc pour vous, il y a que les hétéros qui sont fans de foot.
Non, mais c'est quand même un truc de masculiniste de d'être fou au point de vouloir s'acheter un bout de pelouse à 2000 balles.
Mais pourquoi? Il y a des gens qui achètent, je veux dire, je sais pas, un gant de Freddie Mercury ou une chaussette de Michael Jackson. Bon bah alors.
Pareil, je comprends pas.
Oui, mais le foot. Ou une robe de Barbara Streisand.
Moi, je trouve que quand même cette année nous aura prouvé que le foot et les supporters de foot. Wow, j'adore, attention, j'adore la Coupe du Monde. Hein. Moi, je kiffe ma race. Mais les supporters de foot, ils en tiennent une belle couche quand même.
Bah alors, je comprends pas en fait.
Je dépense pas des
Mais c'est un objet fétiche.
Bah, un objet fétiche, voilà. Et le fanatisme, l'idolatrie.
Mais t'as pas d'objet fétiche, toi.
C'est dangereux.
Mais excusez-moi. C'est un morceau du mur de Berlin.
C'est pas du fanatisme, c'est un morceau d'histoire.
Mais un morceau d'histoire. Et ben, un morceau de gazon de la Coupe du Monde, c'est un morceau d'histoire du sport.
Arrêtons un peu. Moi, je trouve ça. Je regarde ces gens avec beaucoup de compassion.
D'accord, je vous suis sur Instagram, il se trouve, et donc je vous ai suivi lors de vos multiples voyages en avion.
Oui.
Et je vous ai suivi en train d'acheter de multiples figurines à des prix défiant toute concurrence dans des pays lointains.
C'est pas du fanatisme, c'est pas de l'idolâtrie. Je me dis pas, oh là là, peut-être que tel joueur a foulé cette herbe, j'ai envie de lui lécher les pieds, je l'aime.
Oui, c'est tout ça. Mais tu te dis, j'achète une mini poupée à 200 euros. Excuse-moi, pardon.
Je fais de la construction, moi. J'ai une mini Lego maquette.
C'est fou parce que je voulais critiquer cette démarche, mais avec l'argumentation
t'as envie maintenant de la soutenir.
Défends-la bien.
Vive les supporters de foot, vive la Coupe du Monde, vive Gianni Infantino.
Moi j'ai envie de vous dire à tous, allez voir des psys, c'est génial.
Mais ça va pas, c'est un morceau de l'histoire du sport en fait.
Il y a des compétitions toutes les semaines,
mais ça n'a rien à voir.
Tu peux collectionner un maillot de joueur de foot, un ancien combattant, il récupère du sable sur les plages de Normandie.
L'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même entre quelqu'un qui sauve le monde et quelqu'un qui tire un ballon.
Ça nous fait pas de mal.
Allez, on termine avec la disparition du jour.
Ah ouais.
Vous reconnaissez la musique, forcément, la disparition de celui qui incarnait Alan Grant, le paléontologue de Jurassic Park, l'acteur Sam Neill, qui est décédé ce matin à l'âge de 78 ans. Il est en rémission d'un cancer du sang. Si vous n'avez pas vu Jurassic Park, vous avez peut-être quand même vu Sam Neill au cinéma dans d'autres films cultes.
Je sais.
La leçon de piano, L'homme qui murmura à l'oreille,
j'ai vu.
Il est dedans également, Sam Neill. Il a aussi joué dans la série Peaky Blinders et dans Les Tudors.
Moi, ça m'a fait un coup, ouais. Parce que Professeur Grant, Jurassic Park, c'est vraiment c'est l'un de mes films préférés.
1993,
quand on se rend compte à quel point on est en 93 et on a découvert ça au cinéma, les effets spéciaux, les dinosaures qui prennent vie, et le Professeur Grant, Jurassic Park, c'est vraiment un film, Steven Spielberg, c'est un génie, et je suis très 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 peiné par la disparition de Sam Neill.
Est-ce qu'il faut que je voie ce film ou est-ce que ça a vieilli?
Et surtout, au-delà de ça, se rendre compte que ce film a été fait en 1993.
Ça n'a pas vieilli, c'est ça que je veux dire.
Ça a légèrement vieilli.
Ça a vieilli.
Le grain est moins bien, mais rendez-vous compte qu'en 93, qu'on soit capable de faire ça, c'est un choc visuel.
Je vais le noter sur le programme de vacances.
Merci.
Sachez-le. Jérôme Lavrieux.
Ouais, c'est un truc sur. Pour moi, c'était quand même un film sur les safaris avec des animaux
avec
en plastique.
C'était quand même assez dénoncé. Hein,
avec des animaux en plastique. C'est comme le type qui s'est vous fait envoyer en l'air tout à l'heure
dénonce le tourisme animalier.
La dernière fois de sa vie.
Donc en fait, on a copié sur Jurassic Park.
Exactement.
Ok, notre réfugié de 14h. Élise Goldfarb, vous avez vu Jurassic Park, vous?
Non.
Oh, vous non plus?
Non, je suis désolée. Moi, j'ai vu Clueless, j'ai vu Bridesmaids, j'ai vu La Revanche d'une Blonde.
Mais quel rapport?
Des films bien.
Moi, j'ai vu Kaamelott.
Oui, mais quel rapport?
Non, j'ai pas vu Jurassic Park, je sais pas, les dinosaures, ça m'a jamais trop chauffé. Mais par contre, c'est très triste qu'ils soient décédés. C'est une hécatombe cette année, tous les acteurs de notre.
Enfin, on dit ça chaque année.
Bonnie Tyler, la semaine dernière.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec. Elle n'était pas actrice.
Bah, Turnaround, c'est
chaque année, il y a des personnalités qui meurent, vous savez, mais ça, c'est le lot de.
Voilà.
Et il y a aussi des gens qui ne sont pas connus qui meurent.
C'est une hécatombe, voilà.
Oui, chaque année, c'est comme ça.
C'est
voilà. Et d'ailleurs, ils en font une séquence aux Oscars et aux César. Vous voyez,
chaque année, des gens meurent.
Attends, la séquence aux César est de plus en plus longue.
Mais c'est pas les mêmes chaque année.
Bon, écoutez, c'est la fin. Très, très bon mot de la fin de Jérôme Lavrieux. Merci de nous avoir suivis. Estelle Midi revient demain, midi 14h, parce que oui, il y aura le Tour de France, l'intégral tour. Et donc, passez une excellente journée sur RMC et à demain midi.